Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. La question du manque de professionnels de santé, notamment pour la médecine de ville, est une préoccupation majeure puisque selon les derniers chiffres du baromètre d'opinion de la DREES, en 2023, 56% des Français considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de médecins généralistes près de chez eux et ce chiffre était de 21% en 2002. Cette préoccupation est liée au problème de raréfaction de l'offre de soins et de son inégale répartition sur le territoire, à la fois pour les soins de santé de premier recours et pour les soins spécialisés, qui conduisent à d'importantes disparités entre régions et entre types d'espaces. Dans les faits, cela se traduit effectivement par des difficultés à trouver des plages de soins non programmées, par l'allongement des délais d'attente pour un rendez-vous ou encore par l'impossibilité de s'inscrire auprès d'un médecin traitant. Selon une estimation de l'assurance maladie, en juin 2024, environ 11% de la population adulte n'a pas de médecin traitant. Ces problèmes sont au cœur des débats actuels avec un plan gouvernemental qui a été annoncé fin avril 2025 par le Premier ministre, ainsi que deux propositions de loi pour lutter contre les déserts médicaux. L'IRDES travaille sur ces questions depuis de nombreuses années et pour en parler, nous recevons Marie Bonal et Véronique Lucas Gabrielli, toutes deux géographes de la santé et chercheuses à l'IRDES. Marie et Véronique, bonjour.
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 Vous venez de publier aux éditions de l'IRDES, avec Cindy Padilla et Guillaume Chevillard, un document de travail qui s'intitule « Une approche multiprofessionnelle de l'accessibilité aux soins de premier recours, des configurations territoriales très diverses ». Pour commencer, je me tourne vers vous, Véronique. Pourquoi mesure-t-on l'accessibilité aux soins de premier recours et dans quel objectif ?
Eh bien, parce que l'accessibilité aux soins, c'est un objectif majeur de la politique de santé publique en France. Et on s'en préoccupe depuis de nombreuses années dans le champ de la médecine de ville. Du coup, mesurer l'accessibilité spatiale aux soins, ça répond à deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de définir le niveau d'accessibilité aux soins des territoires. Et le deuxième enjeu, c'est de définir les espaces sous-dotés et les espaces surdotés. Alors les espaces sous-dotés, ce sont ceux qui sont éligibles aux dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics pour attirer ou maintenir sur place des professionnels de santé. Et les espaces surdotés, ce sont ceux dans lesquels les installations des professionnels ne sont possibles que sous certaines conditions.
Dans ce cadre, quelle approche proposez-vous pour mesurer cette accessibilité aux soins de premier recours ?
Eh bien, jusqu'à présent, les analyses sont restées principalement axées sur une vision en silo de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on l'abordait profession par profession. Et pourtant, le premier contact avec le système de santé, il implique la coprésence de différentes catégories de professionnels de santé et ces professions ne sont pas substituables. C'est-à-dire que la présence de médecins généralistes pour la prise en charge de premier recours, elle est nécessaire, mais pas suffisante.
Vous vous appuyez donc sur une approche pluriprofessionnelle ?
Oui, notre objectif, c'est ça. C'est de renouveler la description de l'accessibilité aux soins de premier recours à partir d'une approche pluriprofessionnelle. Ça nous permet en fait de souligner la complémentarité de ces professions avec l'idée de favoriser une approche intégrée des soins, c'est-à-dire des soins qui sont centrés sur le patient. Cette approche, elle est aussi considérée comme un véritable levier d'organisation du travail parce qu'elle permet de gagner du temps médical dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale qu'on constate dans beaucoup de territoires.
Alors justement, Marie, quelles professions de santé avez-vous considérées dans votre travail ?
Alors, il faut d'abord préciser qu'on s'est appuyé sur le premier contact avec le système de santé. À côté du médecin généraliste, on propose donc de considérer trois autres groupes de professionnels ou de services de soins. Tout d'abord, les professionnels de santé de proximité. Ici, ce sont les infirmières, les kinésithérapeutes et les pharmacies. Ensuite, les services de proximité intermédiaires. Donc plus précisément les laboratoires médicaux et les cabinets de radiologie qui aident le médecin généraliste à réaliser ses diagnostics. Et enfin, au-delà des soins primaires, il nous a paru essentiel de prendre en compte les soins d'urgence qui apportent une réponse immédiate à un besoin de soins, en particulier lorsqu'il s'agit d'une urgence vitale.
Est-ce que ces professions et ces services sont répartis de la même façon sur le territoire ?
Justement, non. Ces professions et ces services ne maillent pas le territoire de la même façon, d'une part car ils sont plus ou moins nombreux, et d'autre part car ils sont plus ou moins bien répartis sur le territoire. Leur présence concomitante sur un territoire n'est donc pas garantie. Par exemple, le maillage des pharmacies sur le territoire français, il est très fin, tandis que les services d'urgence sont généralement présents soit plutôt dans des villes moyennes ou des grandes villes.
Votre travail de recherche propose une typologie des communes en ce qui concerne l'accessibilité aux soins de premier recours. Est-ce que vous pourriez nous décrire les communes les plus en difficulté ?
Alors, pour résumer à grands traits, on peut distinguer trois groupes de communes qui présentent des difficultés spécifiques. Le premier concerne 5% de la population. Il est constitué de communes rurales qui cumulent les situations défavorables dans tous les domaines. Donc, à savoir à la fois une faible accessibilité à toutes les offres de soins, des besoins élevés et aussi une moindre attractivité du territoire, à la fois pour la population et pour les professionnels de santé. Dans ce cas de figure, on trouve à la fois les zones montagneuses, certains départements d'outre-mer et les régions autour de l'Île-de-France.
Et s'agissant du deuxième groupe ?
Alors, le deuxième groupe concerne 13% de la population. Là, ce sont des communes où le niveau d'accessibilité est mitigé, parce que l'accessibilité est faible pour certains services et meilleure pour d'autres. Et ce constat, il soulève des interrogations sur l'efficacité de la prise en charge globale des patients. Ce cas de figure concerne soit des communes rurales, soit des communes périurbaines éloignées de grands pôles, qui sont situées par exemple autour de Rennes, Lyon ou Dijon. Au total, on a donc 18% de la population qui vit dans ces territoires où l'accès aux soins de premier recours est limité. Mais on a aussi un troisième groupe qui attire notre attention, et celui-là concerne 16% de la population. Donc c'est le cas des communes qui sont relativement mieux desservies, mais pour autant, ça ne les empêche pas d'être confrontées à une décroissance de l'offre de soins qui concerne en particulier les médecins généralistes. Donc cette décroissance de l'offre, en d'autres mots cette perte de l'offre, elle correspond à la fois au départ à la retraite, qui sont nombreux, mais aussi à des départs de médecins actifs, départs qui peuvent dégrader rapidement la situation des communes concernées. Et là, il s'agit principalement de petites et moyennes villes du nord de la France.
Mais donc, ces difficultés d'accès aux soins que vous décrivez ne se limitent pas aux zones rurales.
C'est vrai que quand on parle des territoires mal desservis, on pense d'abord aux territoires ruraux. Pourtant, certaines communes qui sont situées à la périphérie des villes moyennes ou grandes ont une moins bonne accessibilité aux soins de proximité. Alors pourquoi ces zones sont souvent moins bien desservies ? Eh bien, parce que le niveau de l'offre n'est pas en adéquation avec les besoins de la population qui augmentent, c'est-à-dire qu'on est dans des cas où la croissance de la population est plus forte qu'ailleurs. Et cet aspect, il est peu mis en débat.
Donc, à l'inverse, on peut dire que la ruralité n'est pas toujours synonyme de difficulté.
Alors globalement oui, on peut le dire, parce que ce n'est pas tant l'opposition classique urbain-rural qui importe, mais surtout le niveau de l'offre de premier recours qu'on trouve dans les petites villes et les bourgs ruraux qui permettent aux communes rurales alentour de bénéficier de cette offre de soins. Dans ces communes rurales, le niveau d'accessibilité aux médecins généralistes est aussi élevé que dans certaines villes de taille un peu plus importante qui sont plus proches des grands centres urbains. Et puis, à ça, paradoxalement, s'ajoute aussi une dynamique de l'offre qui, dans ces petites villes et bourgs ruraux, est plus favorable qu'ailleurs. C'est dû, en fait, à leur capacité à maintenir sur place les médecins généralistes, et ça, c'est plutôt inattendu.
Et donc, comment s'explique justement le maintien des médecins généralistes dans ces territoires ?
Eh bien, il peut s'expliquer par une forte implantation des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont attractives pour les jeunes médecins. S'ajoute à ça le fait que ces zones rurales se situent dans des régions relativement attractives. Mais il faut nuancer ce constat, car le maintien de l'accessibilité à la médecine générale dans ces territoires n'est pas seulement dû à la présence de médecins. Ça s'explique aussi par le fait que la tendance démographique est à la baisse dans ces territoires et donc que les besoins de la population diminuent. Par contre, la capacité des petites villes et bourgs à fournir les territoires alentours dépend beaucoup de l'attractivité des régions où ils sont situés. Par exemple, c'est dans les communes rurales situées dans le nord de la France que l'accessibilité aux médecins généralistes baisse le plus. Ces communes sont moins attractives, elles sont confrontées à une baisse du nombre d'habitants, à un faible solde migratoire ou encore à de nombreux logements vacants.
Finalement, quelles leçons tirez-vous de ces résultats ?
Eh bien, peut-être avant tout qu'il existe une diversité importante de communes. Ces communes, en effet, elles présentent des configurations très diverses d'accessibilité aux soins de premier recours, ce qui nuance les constats établis. En particulier, les territoires qui sont souvent qualifiés du terme générique de « déserts médicaux », eh bien, ils recouvrent des réalités très différentes. À partir de là, nos résultats permettent de questionner les mesures qui visent à attirer ou maintenir des professionnels de santé en tenant compte des particularités locales. Par exemple, les classes rurales qui sont faiblement attractives et reculées n'ont presque pas d'offres. C'est probablement difficile d'y pérenniser une offre de soins suffisante, mais il faut y apporter des réponses spécifiques, comme par exemple le médicobus ou les consultations avancées. Et par ailleurs, les autres territoires où l'offre de soins est fragile doivent être les premiers ciblés par les mesures qui permettent de pérenniser l'offre de soins.
Justement, il y a des débats et des propositions de loi en cours sur le fait de limiter l'installation dans les zones mieux dotées en médecins.
Alors, concernant la régulation, ce qui a été évalué pour l'instant, c'est seulement la limitation d'installation pour les infirmières dans les zones surdotées. Et on a observé que cette limitation, elle diminue les inégalités territoriales entre les espaces les mieux dotés et les moins dotés. Ce résultat, il s'explique aussi par l'augmentation ces dernières années du nombre d'infirmières libérales et aussi par le fait qu'au départ, la répartition des infirmières sur le territoire était très inégalitaire.
Et qu'en est-il pour les médecins généralistes ?
Alors en revanche, pour les médecins généralistes, il y a une dynamique différente. La raréfaction médicale concerne tous les types de territoires, y compris les mieux dotés, même si bien sûr ce problème est plus important dans les territoires les moins dotés. Dans ce contexte démographique, on peut s'interroger sur la pertinence d'une régulation de l'installation à court terme. Rien ne nous garantit qu'elle profiterait plus aux zones les plus problématiques. Mais pour autant, dans quelques années, l'offre va augmenter de nouveau. Et a priori, ça concernera d'abord les zones les plus attractives et les mieux dotées. Si ça se confirme, la régulation de l'installation pourrait alors être un outil pertinent pour éviter que les inégalités se creusent de nouveau. On voit ainsi que la définition de zones mieux et moins dotées restera un enjeu fort dans les prochaines années. Et dans tous les cas, la régulation de l'installation ne pourrait être qu'une mesure de complément. Il faut aussi mettre en place des mesures innovantes qui ciblent spécifiquement les territoires moins dotés, et ça dans l'objectif de mieux sélectionner et accompagner les médecins dans leur formation et dans leur exercice.
Eh bien, merci Véronique et Marie pour ces éclairages très intéressants. À très bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Podcast de l'IRDES numéro 6, enregistré en juin 2025. Propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.